Chapitre 6. L'aiguille d'Étretat est creuse. Est-ce que c'est l'homme ou la nature qui l'a créée? On ne le sait pas. Cet endroit abrite de nombreux trésors réunis par les rois de France au cours des siècles. Personne n'a trouvé le mystère de l'aiguille creuse. Personne, sauf Lupin. On peut entrer dans l'aiguille creuse par la mer. Mais est-ce qu'il y a aussi une entrée par la terre? Beautrelet reste sur le bord de la falaise, les yeux fixés sur l'aiguille. Puis il descend vers Étretat. Il choisit l'hôtel le moins cher, dîne, monte dans sa chambre et ouvre le document. Il complète la première ligne avec « Étretat ». Quel mot vient avant « Étretat » Beautrelet pense à une indication sur l'emplacement de l'aiguille par rapport au village. L'aiguille se trouve à gauche, à l'ouest. À la deuxième ligne, il y a les mots « demoiselle » et la chambre « des ». Beautrelet se souvient de la position du fort de Fréfossé. Bientôt, il a reconstitué le document. En aval d'Étretat, la chambre des demoiselles, sous le fort de Fréfossé, aiguille creuse. Autrement dit, on part en aval d'Étretat, on entre dans la chambre des demoiselles, on passe sous le fort de Fréfossé et on arrive à l'aiguille. Pour trouver l'entrée du passage, il faut utiliser les informations qui se trouvent à la quatrième ligne du document. Aidé par tous ces éléments, Beautrelet suppose que le souterrain doit partir de la chambre des demoiselles, passer sous le fort de Fréfossé, descendre les 100 mètres de la falaise et, par un tunnel sous les rochers de la mer, arriver à l'aiguille. Les lettres D et F, gravées dans le sol, cachent peut-être un mécanisme. Le lendemain, Beautrelet retourne dans la grotte. Il frappe les lettres, il les pousse, il les manipule dans tous les sens, mais elles ne bougent pas. Rapidement, il comprend qu'il n'utilise pas la bonne technique. Les lettres ne cachent aucun mécanisme. Pourtant, il en est sûr, elles veulent dire quelque chose. Beautrelet cherche. Il imagine toutes les significations possibles. Il interprète toutes les indications du document. Il regarde autour de lui et il finit par trouver. Sur le mur du fort, il découvre une petite croix sculptée. Il tourne la croix, il appuie, le mur pivote. Devant Isidore, il y a l'entrée du souterrain. Beautrelet referme aussitôt la porte. Il est heureux, mais il a peur d'être vu. Le soir, il écrit une lettre au chef de la police. Il demande de l'aide. En attendant une réponse, il dort dans la grotte. Le premier soir, il ne se passe rien. Le deuxième soir, la porte s'ouvre et Beautrelet voit 5 hommes sortir. Il porte des gros colis. Puis, il entend le bruit d'une voiture qui s'éloigne. Quelques minutes plus tard, 5 autres hommes sortent. Ils sont eux aussi chargés de paquets. À nouveau, il entend une autre voiture partir. Il rentre se coucher à l'hôtel. Le lendemain matin, il reçoit la visite de Ganimard. « Enfin !» s'exclame Beautrelet. « Vous êtes incroyable !» dit Ganimard. « J'ai eu de la chance !»« Il n'y a pas de chance avec lui !» répond l'inspecteur qui ne dit jamais le nom de Lupin. « Je viens de chez le président de la République et je dois vous prévenir. Nous devons garder secret tout ce que l'on sait sur l'aiguille. Je ne dirai rien. Voici le plan. » D'abord, vous n'êtes plus Isidore Beautrelet, mais vous êtes un garçon d'Étretat. Vous avez découvert par hasard un souterrain, vous avez vu des hommes en sortir. Très bien, vous allez entrer dans le souterrain et je vous suivrai avec une partie de mes hommes. Nous attaquerons par la côte. Et si Lupin s'enfuit par la mer, l'autre moitié de mes hommes sera là, avec une douzaine de barques, et l'arrêtera. Lupin est capable de tout. Il peut s'enfuir, même avec vos hommes sur la côte et avec vos bateaux. Dans ce cas, je le coule. Il y a un torpilleur qui attend mes ordres. Vous avez pensé à tout, monsieur Ganimard. Le lendemain, à 10 heures, Beautrelet et Ganimard se retrouvent devant l'entrée du souterrain. Beautrelet actionne le mécanisme secret et l'entrée du souterrain apparaît. Beautrelet, accompagné par Ganimard et ses hommes, descend l'escalier. Il compte les marches. Il y en a 45. Soudain, Ganimard s'arrête. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demande Beautrelet. « Regardez, il y a une porte, mais on ne peut pas l'ouvrir. Il n'y a pas de serrure. Il y a donc un autre moyen pour l'ouvrir. Ah, quel moyen ?» La réponse est dans le document. Regardez la quatrième ligne et regardez la porte. Tournez le clou qui est à l'angle.
« Eh bien, ça ne marche pas, » dit Ganimard.
« Réfléchissons. Il y a 45 marches. Sur le document, c'est le chiffre 44. Placez-vous sur la 44e marche, Ganimard. Et maintenant, je tourne le clou. » La porte s'ouvre. Les hommes découvrent une vaste caverne. Ils continuent leur chemin et prennent l'escalier à l'extrémité de la salle. Isidore compte les marches. À la 358e, ils arrivent dans un couloir avec, à nouveau, une porte en fer et des clous.
« Cette fois, nous savons comment faire, » dit Beautrelet.
« Le document indique 357. Faisons comme tout à l'heure. » La seconde porte s'ouvre. Les deux hommes découvrent un très long tunnel. Au bout du tunnel, le groupe découvre une nouvelle grotte et trois escaliers qui montent. Ganimard envoie Isidore en éclaireur. Isidore choisit l'escalier du milieu. À la 30e marche, il se retrouve face à une porte en bois. Il la pousse, elle n'est pas fermée. Là, il découvre une immense salle remplie d'objets, de meubles, de chaises. C'est un véritable magasin d'antiquités. Isidore est curieux. Il décide de continuer seul son exploration. Il prend l'escalier qui est en face de lui. Il grimpe encore 30 marches. Il trouve une porte, puis une salle un peu moins grande. Et toujours en face, un escalier qui monte. 30 marches encore. Une porte. Une salle plus petite. Beautrelet comprend. L'aiguille est une série de salles, les unes au-dessus des autres, et donc de plus en plus petites. Arrivé à la 4e salle, il pense à Ganimard qui l'attend toujours dans la première salle. Il est un peu inquiet, mais il continue son ascension. 30 marches, toujours, puis une porte. Il la pousse doucement. Cette salle est différente des autres. Il y a des tapisseries au mur, des tapis au sol, deux étagères au mur, des vitres aux fenêtres. Au milieu de la pièce, il voit une table avec des fruits, des gâteaux, du champagne et des fleurs. Et sur la table, il y a trois assiettes avec le nom des invités sur des cartes. Beautrelet lit le nom sur la première carte, Arsène Lupin. Puis à la place en face, Madame Arsène Lupin. Enfin, sur la troisième carte, il lit son nom, Isidore Beautrelet.